à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, Sainte Pâque. Et comme c'est la période des petits œufs en chocolat, je vous fais partager une recette de cuisine pour vous assurer un bonheur infini. Au menu, des œufs et du riz, ce qui donne l'euphorie. Ça veut dire l'euphorie. Cela pour nous mettre en forme afin de reprendre le quatrième pas de la guérison intérieure. Dieu est amour et humour. Il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Nous avons bien compris que nous devons avoir les yeux du cœur fixés sur Jésus. Nous sommes alors en contact avec la source de la guérison qui est vraiment notre Jésus. En tant que chrétiens, nous devons bien comprendre que lorsque nous prions pour un malade d'une maladie physique, nous ne faisons pas de médecine. Pas plus que nous ne faisons de la psychanalyse quand nous prions pour quelqu'un qui a le cœur brisé. Il me semble que c'est important de préciser cela. Pour guérir la blessure, nous devons entourer les personnes de l'amour de Jésus. Les assurer qu'il les aime avec leurs blessures. Leur dire qu'il est là pour vous, très présent, et que vous pouvez lui parler de votre blessure et recevoir, comme dans l'histoire du bon samaritain, l'huile qui guérit la plaie, le vin de la nouvelle alliance, de la nouvelle relation, de la relation rétablie avec Dieu et avec les autres. Ce qui va se passer alors dans votre cœur, eh bien c'est tout simple. Jésus va changer votre pensée intérieure. Et en changeant votre pensée, vos émotions et vos sentiments vont changer. Votre pensée consciente ou inconsciente changera à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il va vous faire oublier les choses. Seul lui peut oublier. Les hommes n'oublient pas. Mais notre pensée sur les problèmes, sur la blessure, va changer. Les souvenirs qui nous blessent vont changer. Et c'est comme ça que Jésus va nous guérir. Si nos pensées changent, si nos sentiments changent, notre blessure va se guérir et je ne souffrirai plus. Je pourrai alors regarder mon mauvais passé en face, mais sans douleur. Avec l'amour de notre Dieu, Père, et le pardon immédiat que je reçois, la guérison m'est accordée par Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Libérateur, qui me libère de moi, de mes monstres intérieurs, de mes obsessions. Et alors, je prends de l'altitude, et mes pensées, mes sentiments changent. Pour mieux saisir encore, prenons l'image de l'Ancien Testament. Quand on le lit, il semble que Jésus est absent. Pour celui qui ne prête pas attention, Jésus n'est pas tellement présent. Et pourtant, quand nous connaissons Jésus, à chaque page, nous pouvons le découvrir et il est la clé de l'explication. Dans notre vie passée, avant la conversion, vous ne le connaissiez pas, mais après votre conversion, vous avez reconnu que dans telle circonstance, dans telle situation, il était là, sans que vous le sachiez vraiment à ce moment-là. Vous ne l'avez reconnu que plus tard. Eh bien, c'est la même chose pour nos blessures. Parlons-lui, car il était là et il y était avec amour. C'est cela, la grâce qui nous guérit. Alors, le cinquième pas vers la guérison est déjà un pas de cicatrisation. C'est d'écouter ce que dit le Saint-Esprit. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. En Jean 10, les brebis écoutent la voix du bon berger. Et c'est une des conditions de vie que le Seigneur veut nous donner. Une condition de la guérison. Écoutez ce qu'il nous dit sur nous-mêmes. Dieu va nous parler personnellement, nous donner des paroles, tel un baume cicatrisant, après que la blessure ait été regardée en face, qu'elle a été soignée et maintenant cicatrisée. Ce sont les paroles que Dieu nous dit sur nous-mêmes et sur les autres qui ont été mises en cause dans notre histoire, dans cette blessure, pour nous montrer que nous avons bien entendu et que nous devons confesser par la prière. Ce cinquième pas prendra le temps pour recevoir de Dieu des paroles qui vont être comme un élixir qui va couler sur la plaie pour la cicatriser. Et le sixième pas, c'est ce qui découle de la guérison. Ce n'est pas une condition pour la guérison. Pardonner à qui ? Pardonner à soi-même. Se pardonner de ce que j'ai été dans cette situation, de ce que j'ai laissé aller jusqu'à cette blessure. Il y a des chrétiens qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes, qui se culpabilisent parce qu'ils se sont laissés aller à cette blessure, dans telle circonstance. D'abord, se pardonner à soi-même. Ensuite, pardonner à Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas à Dieu de les avoir laissés aller jusque-là, de les avoir laissés blessés de cette terrible façon, puisqu'il était présent. Puis, pardonner aux autres ce qu'ils ont fait. Mais trop souvent, nous réduisons le pardon aux autres. Pardonner d'abord à soi-même, ensuite à Dieu et enfin aux autres. Il faut que ces trois pardons soient dans notre vie de chrétien. Précisons que pardonner, ce n'est pas approuver l'attitude de ceux qui nous ont blessés. Le Seigneur pardonne sur la croix à ceux qui le crucifient sans approuver leur façon de faire. Pardonner, ce n'est pas approuver l'attitude de ceux qui nous ont blessés. Ceci est important. Nous verrons que la clé pour bien comprendre le pardon est la justice. Il y a pardon que sur une base de justice. Ensuite, pardonner n'exige pas de faire de la personne ou du groupe de personnes qui nous ont blessés votre meilleur ami. Ceci est libérateur. Quand Jésus est ressuscité, car il est ressuscité, il avait pardonné aux soldats romains, à Caïphe, à Pilate et à tous ceux du Sanhédrin. Mais quand il est ressuscité, ce n'est pas vers eux qu'il est allé, mais vers ses disciples. Pardonner, ce n'est pas forcément faire de la personne qui vous a blessé votre meilleur ami. C'est important à dire. Dieu, notre Père, nous demande de nous laisser imprégner de l'amour de Jésus pour qu'entre la personne qui vous a blessé et nous, il y ait cet amour de Jésus. Puisque Jésus change aujourd'hui nos pensées et nos sentiments, cela devient plus facile pour nous. Nous allons pouvoir pardonner et c'est encore une question de désir, de vouloir, de volonté. Chaque ressentiment gardé, voire la haine, est une ouverture laissée à notre blessure sur laquelle Satan va appuyer au moment voulu pour réouvrir la plaie. C'est pourquoi le pardon est comme un bandage que l'on met sur la plaie pour guérir. Et alors, nous pouvons rester dans la victoire et confesser la présence de Jésus maintenant, dans le passé, et louer le Seigneur quand nous entrons dans cette dimension. Revenons à l'image du bon samaritain. On parle souvent du vin qui a été versé. L'image qu'il nous donne, c'est la purification, comme le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. De l'huile qui cicatrise la plaie, qui nous parle du Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est les bandes. Il est dit qu'on banda les plaies. C'est le pardon. C'est ce qui permet à la plaie d'être recouverte, de ne pas laisser la possibilité de se réinfecter. Vous savez que dans les pays chauds, la plaie non bandée attire les mouches qui la réinfectent. D'ailleurs, nous pouvons noter que Satan est appelé Belzéboul, c'est-à-dire le prince des mouches. Et c'est vrai cette image, car si nous ne bandons pas nos blessures par le pardon, nous laissons la plaie ouverte et l'adversaire, le prince des mouches, va pouvoir venir réinfecter la plaie. En synthèse, Dieu veut et peut guérir le présent. Dieu veut aussi guérir le passé, tout ce qui a été emmagasiné dans notre vie, toutes les blessures de nos cœurs, niveau affectif, intellectuel ou autre, tout ce qui nous empêche de courir librement devant le Seigneur. Dieu veut et peut les guérir en coopérant avec nous, à notre guérison, pour nous laisser aller libres de tout notre passé, pour bien vivre notre présent et être ainsi fixés vers l'avenir. Pour bien vivre en plénitude cet instant, présent qui m'est donné pour aimer, il faut être libéré de ce poids du passé. Le Seigneur nous pardonne le passé, si nous lui confessons, mais il nous guérit aussi maintenant. Saint Paul nous rappelle que toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu, en Romains 8. Et le seul but de la guérison est que nous puissions être parfaitement accomplis pour toute bonne œuvre, pour servir le Seigneur, l'Église et le monde. La guérison est là pour nous faire retrouver l'état normal qui nous permet d'agir avec précision en pleine possession de nos moyens. Dieu a besoin de bons et vaillants chrétiens, guéris de leur passé, capables maintenant de mettre toute leur force spirituelle centrée sur ce que Dieu a besoin aujourd'hui de faire dans ce monde. L'Église ne doit donc pas toujours être un hôpital où nous venons pour recevoir tous les jours des pansements sur nos plaies. Mais l'Église a besoin d'être un lieu de victoire, un lieu où maintenant on va se tourner vers les autres, où l'on va recevoir la pensée, la parole de Dieu, non plus pour nous-mêmes seulement, mais pour les autres. Et libérés de nous-mêmes, on va pouvoir évangéliser un Liban, un monde affamé en attente. Et ainsi, l'Église du Seigneur et nos vies vont trouver la dimension que Dieu voudrait qu'elle soit pour marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Levons-nous et marchons ressuscités avec le Christ Jésus qui nous invite au festin de son amour en notre Sainte Église afin de donner à l'Orient le baiser du Père en Jésus.
Ya Yeshua, fils d'Abraham, autour d'une même flamme. est venu d'Orient, pauvre et nu. Il est venu pour t'aimer, l'as-tu reconnu? Il a créé les cieux pour que vive la terre. Il a donné son cœur et fait de nous des frères. Yeshua. Sa mère, Yahmaria, puis le baiser de son père, Yahsalam. Il s'est livré au mal pour libérer l'amour, en te tendant ses bras, supplie à pleine voix, Abana. Sa vie, Yahabibi, en une danse de feu, Yaraboni. Il est monté au ciel, au royaume éternel, diffusant son esprit pour être comme lui, Inch'Allah.
Une fois que nous sommes guéris, libérés de nous-mêmes, il s'agit de décider, en toute responsabilité, de faire de la vérité de l'Évangile la référence ultime pour la vie de notre âme. Tout devient simple, il suffit de renoncer à ce que nous possédons, de prendre notre croix et de marcher derrière le Christ. La seule chose que Jésus-Christ nous laisse, c'est la voie pour le suivre. La croix que nous portons sur nos épaules en imitation de son cheminement vers le calvaire. Jésus nous a donné la règle. Le temps solitaire devant Dieu, c'est-à-dire notre âme face à Dieu. Le renoncement intérieur à tout, c'est-à-dire au monde entier. Nu, solitaire, libéré de tout, l'âme contemple la seule image du Christ. Ainsi, en l'imitant en vérité, nous hissons sa croix sur nos épaules. Et on le suit pour connaître sa propre nuit sans aube à Gethsémani, son terrible Golgotha, pour à travers lui conserver sa foi en la résurrection, en la joie sans déclin de Pâques. Il faut qu'il y ait la croix pour qu'il y ait plénitude. On aime vraiment à proportion que l'on souffre pour et à travers l'être aimé. S'enfuir, demeurer pour le sacrement du meilleur et du pire. Là est l'amour véritable, celui de Jésus et du chrétien en vérité. Le sens de la croix est alors sans limite. La croix du Christ est l'arbre éternel de vie, la force invincible, l'union du ciel et de la terre, l'instrument d'un châtiment terrible et détestable. Mais sur notre chemin d'imitation de Jésus, qu'est-ce que la croix ? En quoi nos croix ressemblent-elles à la croix unique du Fils de l'homme ? Au Golgotha, il y avait trois croix. Celle du Dieu fait homme et celle des deux larrons. Ces dernières sont un peu le symbole de toutes les croix humaines. Laquelle prendrons-nous ? Notre chemin de croix est inéluctable, mais nous pouvons choisir entre suivre la voie du larron blasphémateur et périr, ou celle du larron qui appelle le Christ et nous retrouver aussitôt au paradis. Comme lui, il a été condamné et cloué sur la croix. Comme lui, il a souffert sa passion. L'essentiel et le plus déterminant dans cette vision de la croix, c'est la nécessité de l'accepter librement, de la hisser sur notre dos dans un acte véritablement libre. Le Christ a pris librement sur lui les péchés du monde en les clouant sur la croix. Il les a rachetés, il a vaincu l'enfer et la mort. Le sens de cette croix que nous portons sur notre chemin est là, dans l'acceptation libre de cet exploit et de cette responsabilité. Le Fils de l'homme nous a dit que l'image de Dieu qui est en nous fait de nous aussi des hommes Dieu, et il nous appelle à cette divinisation. Cela pour devenir en lui Jésus, de véritable Fils de Dieu avec lui. Marcher librement vers le Golgotha, voilà en quoi consiste la véritable imitation de Jésus-Christ. Et j'oserais dire la vocation exceptionnelle du chrétien libanais. J'oserais ajouter du chrétien maronite. C'est pourquoi j'ai choisi librement de devenir moi-même maronite après 22 ans de vie en cette église maronite du Vendredi Saint. Oui, ma vie est devenue une alliance de feu entre le Christ, mon âme, et le Liban blessé. Et c'est bien la Mère de Dieu, Marie, qui nous guide sur ce chemin du Golgotha, car si le Christ souffre sa passion volontaire, Marie souffre involontairement avec lui. Il porte les péchés du monde, elle collabore avec lui, compatit. Il est crucifié dans sa chair, elle est crucifiée avec lui. Telle est la souffrance du Golgotha. C'est la souffrance que le chrétien épouse pour montrer au monde à quel point Jésus l'aime avec notre Père. La kénose de Dieu, le très haut qui devient le très bas pour épouser notre misère et nous en libérer. La terre a tremblé, le voile du temple s'est déchiré. La terre du Golgotha transpercée par la croix, inondée par le sang, n'est-elle pas le cœur maternel traversé par l'épée ? Oui, la croix du Golgotha transpercée est l'âme de la terre mère. Le Christ, en montant aux cieux, a laissé l'Église sur terre dans le monde pour faire lever toute la pâte humaine. Il a donné le monde entier à l'Église. C'est déjà fait. Et chaque chrétien éveillé en sa foi, qui demeure jusqu'au Golgotha, est ce combattant de la lumière, qui participe à la transfiguration de ce monde. Je vous l'ai déjà dit, le choix est clair, ou défiguration, ou transfiguration. Donc soyez fiers si vous êtes des chrétiens, encore plus si vous êtes libanais. Rien, ni le mal, ni l'enfer, ne prévaudront contre l'Église, contre le Liban. Essayons seulement, au cœur de notre souffrance mortelle, d'apercevoir l'ange en vêtements blancs qui nous crie « Celui qui était mort n'est plus dans le tombeau, il est vraiment ressuscité !» Alors le Liban entrera vraiment dans la joie pascale de la résurrection. Et pour finir, je ferai un clin d'œil à M. Roger, le charmant et vaillant surveillant de l'université de Kaslik. Avec lui, prions pour tous les dirigeants du Moyen-Orient, surtout les dirigeants chrétiens au Liban, afin qu'ils puissent avec nous s'écrier « Ensemble !» Oui, il est venu, il est vraiment ressuscité. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.